Court éthique par la permis Dominique Philippe, le 14 mars 2002 à Saint-Judas.
L'éthique religieuse. Il faut essayer de comprendre comment la vertu de religion qui nous fait adorer Dieu, le Créateur, donc fondamentalement, l'adoration est fondamentale dans l'attitude religieuse. Elle définit l'attitude religieuse, c'est l'adoration. Et l'adoration va s'étendre dans une attitude d'abandon. Il est naturel de s'abandonner au bon plaisir de Dieu. Naturellement, toute attitude religieuse impliquera l'attitude d'abandon. C'est pour ça que c'est si dangereux de supprimer cette attitude religieuse, parce qu'on supprime l'abandon. Donc on supprime la possibilité fondamentale pour l'homme de se reposer consciemment dans le gouvernement du Père. Il est naturel de considérer Dieu, créateur de notre âme, comme notre Père. Vous voyez, l'attitude des stoïciens avant Jésus-Christ, avant la révélation chrétienne, et l'attitude des stoïciens dans Plotin va très loin pour montrer comment l'âme est naturellement religieuse. Il faut ça, l'affirmer, que l'attitude religieuse n'est pas une attitude qui vient du christianisme. Elle est fondamentalement religieuse. C'est en sens-là que le pape peut unir à Assise tous ceux qui adorent Dieu, tous ceux qui s'abandonnent à Dieu, dans toutes les religions. Et l'attitude qu'il y a actuellement chez certains en Europe, parce que c'est en Europe surtout que cela existe, parce que l'Europe a été plus catholique, alors l'opposition va plus loin. La suppression de l'attitude religieuse va conduire l'humanité dans une impossibilité de se reposer, d'avoir une attitude d'abandon. Et donc, on va ouvrir le champ à une instabilité radicale. On va voir ça. Supprimer l'attitude religieuse, c'est ouvrir la porte à une instabilité très très profonde. Puisque si Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas de vertu de religion, de remise entre les mains de Dieu, on ne peut se remettre qu'entre les mains des hommes. Et se remettre entre les mains des hommes, c'est se remettre à une loi humaine, naturelle, qui, étant donné l'attitude humaine d'aujourd'hui, d'orgueil, de domination, c'est se remettre entièrement à un pouvoir dominateur de l'homme qui n'est pas vrai, donc qui sera orgueilleux. Ça ne peut pas être autrement. Si Dieu n'existe pas, la seule manière de s'en tirer, c'est l'orgueil, la domination du tyran. C'est très grave. Hein. Ça, il faut le voir intellectuellement. L'attitude religieuse implique l'abandon. Un abandon réel, une remise entre les mains de Dieu de ce que nous avons à faire. Le gouvernement radical de Dieu comme créateur et comme père. Naturellement, la reconnaissance de Dieu comme créateur, puisqu'il a créé notre âme, il est le père de notre âme. La paternité de Dieu sur nous est naturelle. Et elle engendre en nous une attitude de confiance. Et donc de repos possible en Dieu. On peut se reposer en Dieu. Même indépendamment d'une contemplation. Le repos le plus profond en Dieu, ce sera justement ce dépassement de la vertu de religion pour la contemplation. Il y a une véritable contemplation naturelle de Dieu. À côté de ce mystère d'abandon, de remise tout entre les mains de Dieu, entre les mains du Père, il y a la prière. La prière relève de la vertu de religion. De la vertu de religion naturelle. L'homme, créature de Dieu, et comme Dieu est tout-puissant, et comme c'est lui qui gouverne l'univers, il y a l'attitude religieuse de la prière. L'abandon et la prière, vous voyez, les deux attitudes de la religion, de la religion naturelle. La prière. Alors, qu'est-ce que c'est que la prière dans ce qu'elle a de tout à fait foncier, dans ce qu'elle a de radical? La prière consiste à ouvrir volontairement son âme à Dieu à travers tous les désirs de notre âme. C'est remettre à Dieu les désirs de notre âme. La prière est complètement changée avec le christianisme, puisqu'elle est soutenue par l'espérance théologale. Et la prière de l'enfant à l'égard de son père. Je ne crois pas qu'on puisse dire que naturellement il y ait une mystique permettrait à l'âme cette attitude de petitesse. L'attitude de Thérèse de l'Enfant Jésus est typiquement chrétienne. Je ne crois pas qu'il y ait une enfance spirituelle pour une religion naturelle. Ça ne peut pas aller jusque-là. Laisser à moi venir les petits-enfants, ça c'est typiquement chrétien. ça n'existe pas dans le stoïcisme. Dans le stoïcisme, il y a l'attitude de celui qui, en face de Dieu, reconnaît qu'il est entre les mains de Dieu. Et à ce point de vue-là, il s'en remet à Dieu. Mais non pas l'attitude de l'enfance. Ce serait intéressant à creuser, ça. Est-ce que naturellement peut-il y avoir une attitude d'enfant de Dieu, d'enfant du Père? Je ne crois pas. Mais je laisse le point d'interrogation. Je n'ai pas étudié suffisamment la question pour le dire. Dans le stoïcisme, qui est l'attitude religieuse de l'homme naturellement, vous voyez, Aristote, lui, a vu la pointe extrême de la transcendance de Dieu. Noésis, noéseos, la pensée de la pensée. C'est, je crois, le point ultime de la transcendance de Dieu vu naturellement. Sitôt après Aristote, il y a l'attitude stoïcienne de la remise de toute notre vie entre les mains de Dieu. La religion stoïcienne implique l'abandon, la remise entre les mains de Dieu. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que l'attitude stoïcienne va de fait engendrer en nous une attitude d'enfant de Dieu, l'attitude de la petite Thérèse. Je crois que c'est typiquement chrétien, ça. Il y a un abîme entre l'attitude de sainte Thérèse, de la petite Thérèse, à l'égard de Dieu, et celle des stoïciens à l'égard de leur père, à l'égard de Dieu. Vous voyez, chez les stoïciens, la toute-puissance de Dieu est première, un peu comme dans la religion musulmans. C'est l'attitude première de la toute-puissance de Dieu. Et en face de la toute-puissance de Dieu, c'est pas l'attitude de l'enfance. C'est l'attitude du serviteur docile qui remet tout entre les mains de Dieu. Le sommet de l'attitude chrétienne, c'est pas la toute-puissance, c'est l'amour et la miséricorde. En face de l'amour et de la miséricorde, on va beaucoup plus loin. On est in manus tuas, entre les mains de Dieu, entre les mains du Père. Et entre les mains du Père, c'est une attitude filiale d'enfant, d'enfant du Père, de petit enfant du Père. C'est chrétien. Et stoïciens, on est des serviteurs dociles à l'égard de la toute-puissance du Père. C'est très important cela, à regarder cela et à étudier cela. Il y a dans l'attitude chrétienne quelque chose qui va plus loin. Un abîme de pauvreté. La première béatitude, bienheureux les pauvres. Il y a une attitude de pauvreté qui permet aux chrétiens d'être vraiment dans les mains du Père. Il remet tout au Père par la foi. La foi nous permet une remise de notre intelligence Et cette remise sur l'intelligence permet l'enfance spirituelle et surnaturelle de la petite Thérèse. La petite voix chez un stoïcien qui regarde naturellement la toute-puissance de Dieu, ou chez un musulman, c'est quasi impossible. On est serviteur, on n'est pas enfant. On n'est pas l'enfant du Père. C'est très beau, cette attitude du serviteur. C'est très grand. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un abîme entre les deux. Il y a un abîme d'amour. Vous voyez ? Ce n'est pas la toute-puissance qui domine, c'est l'amour. C'est toujours très important quand on est en face d'une religion de se demander qu'est-ce qui domine dans cette religion, dans notre regard sur Dieu. Est-ce que c'est la toute-puissance ou est-ce l'amour ? L'amour permet la petitesse de la petite Thérèse, la petitesse évangélique, qui est un fruit direct du don de crainte. C'est le don de crainte qui permet cette attitude-là. Et le don de crainte est à l'intérieur de la foi, cette attitude de petitesse, de néant. Encore plus que la petitesse, néant. On n'est rien en face de Dieu. Et on aime d'être rien pour se blottir davantage dans le cœur du Christ. On remet tout. Ça, c'est typiquement chrétien. Tandis que ce qui reste religieux, c'est l'attitude du serviteur docile qui regarde les mains de ses servants, les mains de sa maîtresse. Ce que le psaume dit. Alors ça, c'est l'attitude du serviteur qui attend les ordres, qui se soumet aux ordres. Et donc, l'ordre n'est pas l'amour. Toute la différence entre l'amour et donner des ordres nous fait comprendre la différence entre la petitesse évangélique et la petitesse du stoïcien ou du musulman. Les stoïciens font comprendre très bien ce que sont les musulmans. C'est une religion stoïcienne, évidemment. C'est très beau et très grand. C'est très noble. Dans les attitudes musulmanes, il y a quelque chose de très noble, très beau. Je me souviens, c'était à Damas, un des lieux très importants pour les musulmans. Il y a la cathédrale Saint-Étienne, qui est merveilleuse, qui est une cathédrale chrétienne et catholique, mais qui est devenue une mosquée. Alors, elle est très belle, puisque les musulmans ont supprimé toutes les statues, évidemment. Alors, il n'y a qu'une architecture extrêmement rigide, mais belle, très grande. Et je visitais Damas, c'était l'heure de la prière. Alors, ils ont évacué tous les civils, il y avait que les musulmans qui avaient le droit de rester, et moi ils m'ont fait signe que je pouvais rester, parce que j'étais en habit religieuse, et j'ai assisté à leur prière. Je me suis mis à l'écart pour qu'il n'y ait pas de confusion, mais en même temps ça suit l'attitude de prière, pour ne pas les intimider. Et c'était très beau. Et évidemment, il y a un abîme, je dis bien, il y a un abîme entre la petitesse évangélique, qu'une grande crainte, et ce respect, c'est un respect, ce respect religieux très grand à l'égard de la volonté du Très-Haut, à l'égard de la volonté du Père. Je crois que c'est très important. C'est une clé qui doit nous faire comprendre ce que c'est qu'une religion naturelle. Les musulmans, c'est une religion naturelle. Elle n'est pas inspirée. Elle n'est pas révélée. Elle est naturelle. On doit avoir beaucoup de respect vis-à-vis d'une religion naturelle. Parce que c'est grand. C'est majestueux. C'est très majestueux, les musulmans. Vous voyez, leur manière dont ils prient, 7 fois par jour. Il y a quelque chose de très beau, même au milieu de leur travail, n'importe où. Quand vous voyez un maçon musulman, à l'heure de la prière, il arrête. Il met son voile par terre et puis se prosterne. Vous ne verrez jamais un catholique faire ça. Le respect humain n'existe pas. Ils sont en face de Dieu, serviteurs de Dieu. Alors, le respect est très grand. Nous avons plus, hein. Nous avons quelque chose, mais qui se transmet très difficilement. Nos églises sont plus sacrées que le lieu de rencontre des musulmans. Eux enlèvent leurs souliers. On peut y aller comme des mendiants. Un catholique n'enlève pas ses souliers pour entrer dans l'église. Alors c'est sûr, il faudrait enlever ses souliers intérieurement. Vous voyez, c'est ça la vie chrétienne. C'est que tout est intérieur. Il y a une intériorité très grande, beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. La religion est un abaissement du cœur en face de Dieu. On se tait en voyant qu'on est néant. La religion naturelle se manifeste beaucoup plus. Et chez les musulmans, ça se voit. Donc, ce serait très intéressant d'étudier la religion naturelle pour comprendre les musulmans. Pour voir un peu, on verrait que c'est constamment ça. Et Plotin, à ce point de vue-là, est merveilleux. Il faut lire Plotin. Parce que Plotin montre très bien ce que c'est qu'une religion naturelle. Une mystique naturelle, Plotin. Plotin, on l'a trouvé en extase dans le lieu où il vivait, qui était une cellule crasseuse, paraît-il. On dit que c'était vraiment... Il vivait dans une pauvreté, et une pauvreté qui, quelquefois, était... pire qu'une pauvreté, c'était la saleté. Et on a trouvé Plotin en extase pendant 3 jours. Alors qu'est-ce que c'est que cette extase? L'extase catholique, c'est Dieu qui vous prend, c'est le Christ qui vous empare. Mais l'extase stoïcienne, l'extase d'un musulman. Je connaissais à Fribourg un musulman qui, chaque fois qu'il entrait chez moi, dans ma cellule, se mettait à genoux et demandait ma bénédiction chaque fois. Et il priait. Et pour lui, il me le disait, je considère le chrétien comme un musulman complètement achevé. Le christianisme pour lui, c'était l'attitude religieuse qui avait été jusqu'au bout. Et cela grâce au Christ. Il y avait la visite de Dieu parmi les hommes qui permettait à l'homme d'atteindre quelque chose qui était surhomme. Et lui allait très loin dans sa religion humaine. C'était très beau. Parce qu'il respectait infiniment le point de vue de la religion chrétienne. Vous voyez, c'est très beau ça, de rencontrer un homme rectifié humainement. Et par le fait même, sa religion, c'était le respect suprême à l'égard de Dieu. Et son adoration, c'était le respect suprême à l'égard de Dieu. C'était pas la vertu de pauvreté qui s'anéantit en face de Dieu. Reconnaît que tout vient de Dieu. Il y a donc quelque chose de très important pour de saisir ce respect dans la prière à l'égard de Dieu. La prière consiste à offrir à Dieu tous nos désirs. Tous nos désirs sont donnés à Dieu. C'est ça la prière, c'est offrir ses désirs à Dieu. Vous voyez, la psychologie, on s'arrête à nos désirs. C'est là. Elle est laïque. Et par le fait même, elle n'est pas vraie. Parce que l'homme est naturellement religieux. Or, on ne dit pas que la psychologie est religieuse, sauf peut-être au Mexique. Mais, alors là, on a une attitude religieuse naturelle. Et ça ne m'étonne pas à cause de l'Espagne. L'Espagne a gardé beaucoup plus le point de vue naturel, religieux, que la France. La France s'est terriblement paganisée à cause de Descartes. Là, c'est sûr. Parce que le point de vue amour chez Descartes, c'est la passion. Il n'y a pas d'amour spirituel, c'est la passion. Alors, si vous supprimez l'amour du chrétien, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas grand-chose. Ça devient une espèce d'intelligence qui s'offre à Dieu, mais c'est le cœur. C'est le cœur que le Christ a pris avant tout. Puisque il a éteint l'ambition et l'orgueil. Il était noir. Pourquoi ? C'est vrai, la foi en elle-même exige un acte d'amour pour dépasser l'intelligence. Donc, il y a là quelque chose qui est très important à étudier aujourd'hui, parce que le Saint-Père nous y invite. Si on est vraiment fidèle au Saint-Père, on doit aller jusque-là. Autrement, les gestes du Saint-Père, on ne les comprend pas et on dit « Oh, c'est affolant, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il confond tout. » Non, le Saint-Père vit exactement ce qu'il a dit dans son encyclique « Fides et ratio ». Il montre qu'il existe une attitude religieuse humaine. L'attitude religieuse humaine invite tous les religieux. Et à ce point de vue-là, c'est très beau, c'est très grand. Et c'est nécessaire pour nous, au point de vue apostolique, puisque aujourd'hui il n'y a plus de frontières. Vous êtes constamment devant des religions asiatiques, et ordinairement, ces religions vous dépassent, et vous avez une attitude purement négative. Tu vois, vous, on a facilement, en tant que chrétien, une attitude purement négative. On ne voit pas que dans ces attitudes, il y a quelque chose de vrai. Et on doit se demander si nous-mêmes, notre nature est suffisamment religieuse, notre nature humaine. Est-ce que dans notre nature humaine, nous avons compris cette attitude religieuse que nous devons comprendre? C'est un devoir. Et si on ne la pratique pas, on n'arrive pas à le comprendre chez le voisin. On n'arrive pas à le comprendre chez le musulman. On n'arrive pas à le comprendre chez toutes les religions asiatiques. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Alors, vous êtes bien obligé d'étudier cette religion humaine dans ce qu'elle a de plus profond et ne pas déborder dans un sens chrétien, voire humainement, jusqu'où l'attitude religieuse peut aller. L'attitude religieuse peut commander le point de vue religieux, l'adoration. Elle peut commander une attitude d'abandon filial à l'égard du Père. Elle peut commander d'offrir à Dieu tous les désirs de notre cœur. Tous les désirs de notre cœur, nous ne devons pas les éteindre, mais les brûler dans l'adoration. Les offrir dans l'adoration. Oui. Mourir à soi-même dans l'évangile. Celui qui ne meurt pas pour lui-même. C'est mourir en offrant tous nos désirs à Dieu. En brûlant tous nos désirs à Dieu. Les désirs naturels sont bons. Il y a quelque chose de grand dans les désirs naturels. Alors, celui qui ne les offre pas à Dieu, qui les garde, sera toujours à chercher leur réalisation. Et comme leur réalisation ne vient pas tout seul, toute leur vie, ce sera essayer de trouver une solution à ces désirs naturels. Alors que tous ces désirs doivent être offerts à Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est offrir à Dieu tous nos désirs. Tous les désirs de notre cœur, on les offre à Dieu. Ils sont pour Dieu. En faisant et en ayant cette étude-là, on cultive le sens de la prière. Et on doit cultiver fondamentalement ce sens de la prière. Tous les désirs légitimes ne peuvent être offerts à Dieu que des désirs légitimes, que des désirs vraiment naturels. Les désirs pécamineux ne peuvent pas être offerts à Dieu. Ils sont contraires à la nature, donc ils ne peuvent pas être offerts à Dieu. Mais tous les désirs légitimes peuvent être matière à prier. Ils s'expriment dans la prière à l'égard de Dieu. Et la prière codifiée, très codifiée au point de vue liturgique, est quelque chose de très beau, de très grand, mais quelque chose de sélect. Il ne faut jamais oublier que ce sont tous nos désirs qui doivent être offerts à Dieu comme une matière à prier. Alors ça, c'est pas codifié. C'est tous nos désirs. Et c'est par là que l'âme demeure religieuse en offrant à Dieu tous les désirs que nous avons. Ça va très loin. Le désir de paix, le désir de calme, le désir d'être heureux, le désir que ça réussisse bien ce qu'on entreprend, le désir qu'il n'y ait pas de lutte, de guerre, d'opposition, qu'on puisse s'aimer. Tous les hommes, tout ça, c'est offert, c'est une matière à prier. Et c'est brûlé par l'amour qu'on a pour Dieu. Alors, la prière, ça va très loin. La prière dans la vie, dans l'épanouissement religieux. Ce qu'il y a de plus grand dans l'homme, ce sont ses désirs. Et c'est vrai, Sainte Catherine de Sienne l'expose magnifiquement, ça. Parce que c'est... il y a quelque chose de très beau dans Catherine de Sienne, c'est de voir ce qu'il y a de plus grand dans l'homme, c'est le désir. Dirions-nous, ce qu'il y a le plus grand dans l'homme, c'est l'appétit naturel de la vérité, le désir de la vérité. C'est ce qu'il y a de plus grand dans l'homme. Et c'est la matière fondamentale de la prière, ça. Offrir à Dieu ça. L'humanité ne cherche plus beaucoup la vérité. Et c'est pour ça qu'elle a perdu le sens de la prière. On ne prie que d'une façon codifiée, d'une façon formelle. On récite la prière. Et la prière, ça ne se récite pas. Ça se chante intérieurement. C'est notre cœur qui monte vers Dieu. La fameuse ancienne définition de la prière, cette montée de l'âme vers Dieu. Et cette montée de l'âme vers Dieu, c'est le désir. Duc in altum. C'est ça, c'est ce désir. Duc in altum. C'est cette montée. Et ça, c'est offert à Dieu. Naturellement. Et Dieu pénètre comme cela au plus profond de notre cœur. Parce que ce sont les désirs exprimés à Dieu qui ouvrent notre cœur à l'influence de Dieu. Dieu peut y pénétrer. Dieu doit y pénétrer. Mais Dieu n'y pénètre que si nous les offrons à Dieu. Dieu respecte autrement nos secrets. Et nos secrets, c'est de maintenir des désirs uniquement pour nous, uniquement pour nos amis. Alors que si nous avons une âme priante, une âme religieuse, nous avons une âme priante, ces désirs les plus secrets de notre âme, on les dit à Dieu, on les offre à Dieu, c'est pour Dieu. Et de cette manière, Dieu pénètre au plus intime de notre cœur. Et on acquiert une âme religieuse. Ça s'acquiert, une âme religieuse. Une âme religieuse, nous n'avons pas de secret pour Dieu. Tous nos secrets sont une matière à prier. Les secrets, les vrais secrets, hein, pas les faux, les vrais secrets. Mais ce qui est de plus grand dans l'homme, ce sont ses désirs. Et ses désirs sont offerts à Dieu pour manifester à Dieu qu'on le considère comme le Père de notre intelligence, comme le Père de notre cœur. Et les désirs affectifs de notre cœur, les plus profonds, lui sont offerts comme prière. Et cette prière, elle est personnelle, elle peut être collective. Quand on est plusieurs à prier, on offre à Dieu nos désirs communs. Et offrir à Dieu nos désirs communs, c'est offrir à Dieu plus profondément notre cœur. Je crois que c'est cela qui est de plus grand dans la prière religieuse.